Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر Allahi qarib Ala inna nasrallahi qarib Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 30 juillet 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. L'Iran soutient pleinement la politique « une seule Chine » contre l'unilatéralisme destructeur des États-Unis, a dit le président iranien lors d'une conversation téléphonique avec son homologue chinois. Un adolescent palestinien de 16 ans a été tué par les forces militaires du régime sioniste à Ramallah en Cisjordanie. Et l'Algérie, le Niger et le Nigeria s'entendent sur un gazoduc transsaharien destiné à alimenter l'Europe. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des pays faisait partie des principes fondamentaux de la politique étrangère iranienne, a fait savoir le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une conversation téléphonique d'une heure avec son homologue chinois Xi Jinping, vendredi 29 juillet. Il a déclaré que l'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures des pays est une continuation de la politique destructrice d'unilatéralisme de Washington, qui se transforme maintenant en une menace pour la paix et la sécurité internationale. Il a ainsi fait part du ferme soutien de la République islamique d'Iran à la politique d'une seule Chine envers Taïwan. M. Raisi a déclaré à son homologue chinois que Téhéran était résolu à étendre ses relations avec Pékin dans tous les domaines, quels que soient les développements internationaux existants. Et il a déclaré que tout effort américain pour répéter l'ère de la guerre froide dans le monde indiquerait sa faiblesse et son déclin. Il a déclaré que la politique de l'Iran sur l'amélioration des relations avec ses États voisins a préparé le terrain nécessaire à la sécurité collective et au développement en Asie occidentale et peut servir de modèle pour renforcer la confiance politique et le développement économique dans la région. Le chef de l'exécutif iranien a également réitéré les efforts de l'Iran pour assurer la sécurité maritime et le transfert d'énergie. Soulignant les pourparlers entre l'Iran et le groupe de pays P4+1 sur les moyens possibles de relancer l'accord de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan Global d'Action Conjoint, M. Raisi a déclaré qu'en tant que parti qui a violé l'accord, les États-Unis devraient prendre une décision politique et adopter toutes les mesures nécessaires pour lever les sanctions illégales contre Téhéran. Le président iranien a salué la promotion de la coopération économique multilatérale conformément aux accords régionaux et extra-régionaux tels que le puissant groupe des économies émergentes du monde, les BRICS, et l'organisation de coopération de Shanghai. Messieurs Raisi et Xi ont salué l'augmentation des liens mutuels et des échanges commerciaux au cours de l'année écoulée et se sont mis d'accord sur les moyens d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique de 25 ans entre Téhéran et Pékin. M. Xi a déclaré que l'Iran jouait un rôle constructif dans le maintien de la stabilité dans la région et a exprimé l'opposition de son pays à la politique de pression et à l'unilatéralisme américain. Il a déclaré que face à la situation internationale complexe, la Chine et l'Iran avaient renforcé leur solidarité et leur coopération et leurs intérêts communs et sauvegardé les droits et intérêts légitimes des pays en développement. L'Iran et la Chine déclarent qu'ils combattront les sanctions unilatérales et illégitimes des États-Unis. Les forces du régime sioniste ont tué un garçon palestinien de 16 ans dans le village d'Al-Murayr, au nord-est de la ville occupée de Ramallah en Cisjordanie. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé que de tels actes n'affecteront pas la détermination de la nation palestinienne à défendre sa terre. Identifié comme Amjad Abu Aliya par le ministère palestinien de la Santé, l'adolescent a succombé à ses blessures graves vendredi 29 juillet à la suite de balles réelles tirées par des soldats israéliens dans la poitrine lors d'un raid militaire dans la région de Ramallah. Selon l'agence de presse Wafa, les affrontements ont éclaté après que les forces israéliennes et les colons ont violemment réprimé un rassemblement contre les attaques des colons dans le village. Dans un communiqué vendredi, le Hamas a condamné le crime flagrant commis par le régime sioniste. Il a déclaré que de tels actes ne briseront pas la volonté du peuple palestinien sur la voie de la libération de sa patrie. Le mouvement a également appelé les combattants de la résistance et la jeunesse palestinienne à continuer de s'opposer au projet de colonisation illégale de l'occupation israélienne. Dans un autre incident, jeudi soir, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur un véhicule au poste de contrôle militaire de Ouvara, au sud de Naplouse, blessant 3 Palestiniens. 2 des hommes ont été transportés d'urgence à l'hôpital par des médecins palestiniens, tandis que le 3e, qui avait subi une grave blessure au cou, a été arrêté par les forces israéliennes et transféré dans un hôpital israélien. Selon des témoins oculaires, l'affrontement a éclaté alors que les 3 jeunes hommes étaient dans leur voiture. Les forces israéliennes ont fermé le poste contrôle et empêché les Palestiniens de se déplacer dans les 2 sens après l'incident. Pendant ce temps, vendredi matin, les forces du régime sioniste ont attaqué un certain nombre de maisons à Naplouse et arrêté 3 Palestiniens. Les médias locaux ont déclaré que les soldats sionistes avaient attaqué la ville de Kafr Elil, au sud de Naplouse, et attaqué 2 frères nommés Mouataz et Imad Nasser Mansour. Lors d'une autre attaque dans la ville de Tal, au sud de Naplouse, les forces du régime sioniste ont arrêté Ala Amayel, après avoir violemment pénétré par effraction dans sa maison familiale. L'arrestation a eu lieu un jour seulement après sa libération. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en garde les États-Unis et les pays de l'OTAN contre un nouvel armement de l'Ukraine, affirmant que cela prolongerait le conflit et la douleur qui en résulterait. Lavrov a fait ses remarques à son homologue américain Tony Blinken le vendredi 29 juillet lors du premier appel téléphonique entre les deux depuis le début de l'opération du 24 février en Ukraine. Au début du mois, les États-Unis ont dévoilé un paquet d'armes de 820 millions de dollars pour l'Ukraine, portant le total de l'aide militaire de Washington à Kiev sous le président Joe Biden à 7,6 milliards de dollars. Le nouveau paquet comprend des systèmes de missiles solaires et des radars de contre-artillerie pour renforcer l'armée ukrainienne. Le paquet faisait suite à une expédition distincte d'aide militaire de 450 millions de dollars annoncée plus tôt, qui comprenait 4 systèmes de fusées d'artillerie à haute mobilité IMARS et des patrouilleurs, entre autres équipements. Lavrov a également déclaré que la Russie avait l'intention d'atteindre les objectifs de son opération en Ukraine, qui, selon Moscou, est menée en état de légitime défense. La Russie affirme que l'opération vise à démilitariser la région ukrainienne orientale du Donbass. L'Algérie, le Niger et le Nigeria s'entendent sur un gazoduc transsaharien destiné à alimenter l'Europe. Les ministres de l'énergie algériens, nigérians et nigériens ont signé jeudi 28 juillet un mémorandum d'entente de concrétisation du projet du gazoduc transsaharien TSGP long de plus de 4000 km qui permettra d'acheminer du gaz nigérian vers l'Europe. Selon l'agence officielle APS, le transsaharien devrait transporter à terme des milliards de mètres cubes de gaz nigérian vers l'Algérie en passant par le Niger. L'Algérie pourra ensuite envoyer vers les pays de l'Union européenne du gaz nigérian via le Transmed qui relie les pays à l'Italie en passant par la Tunisie et en GNL, le gaz naturel liquéfié transporté par des méthaniers. Lors de la 3e réunion ministérielle tripartite Algérie-Niger-Nigeria, jeudi à Alger, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, et ses homologues du Nigeria, Timimpré Silva est du Niger, Mahaman Sani Mahamadou, ont co-signé le mémorandum d'entente après avoir discuté des aspects du projet, notamment l'état d'avancement. Pour l'instant, aucune indication n'a été donnée sur la date d'achèvement de ce projet. D'une longueur de 4128 km, dont 1037 km en territoire nigérian, 841 km au Niger et 2310 km en Algérie, le TSGP va relier les gisements gaziers du Nigeria en passant par le Niger à la frontière algérienne pour se raccorder au réseau algérien. Le TSGP permettra également, sur son passage, l'alimentation des régions des pays du Sahel. Ce projet a été réactivé dans un contexte géopolitique marqué par une forte demande internationale de gaz et pétrole et une flambée des prix après la guerre en Ukraine. Plusieurs pays, notamment européens, cherchent à réduire leur dépendance des livraisons russes et se sont tournés vers l'Algérie. Le pays nord-africain, dont les réserves prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2 400 milliards de mètres cubes, fournissait environ 11 % du gaz consommé en Europe avant la guerre en Ukraine, contre 47 % pour la Russie. Il est le premier exportateur africain de gaz naturel et le 7e mondial. 5 personnes, dont 3 volontaires pour la défense de la patrie, VDP, supplétifs de l'armée burkinabé, ont été tués jeudi soir dans des attaques perpétrées par des individus armés non identifiés dans la ville de Siba, située dans la province de Yaga, dans le Sahel burkinabé. A-t-on appris vendredi 29 juillet de sources concordantes. Des hommes armés ont mené des attaques contre les domiciles des volontaires pour la défense de la patrie au secteur numéro 5 de Siba. Le bilan provisoire est de 5 morts, dont 3 combattants volontaires et 2 civils, a rapporté la plateforme de suivi des attaques terroristes Sahel Security, qui a ajouté que la tentative d'étranglement de cette ville se poursuit. Ces attaques ont été rapportées également par des médias locaux, dont Radio Omega, qui a indiqué que plusieurs habitants de ce quartier de la ville se sont déplacés pour trouver refuge dans d'autres quartiers jugés plus sécurisés. La situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces dernières semaines dans la ville de Seba, alors que l'accès à la ville demeure difficile en raison de la présence d'engins explosifs improvisés sur les différents axes routiers. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et plus d'1,9 million de déplacés internes. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Armes iraniennes plus fortes que la bombe atomique. Les drones iraniens plus pertinents que les bombes nucléaires. L'Iran n'a pas besoin d'armes nucléaires pour affronter ses ennemis. Dans un rapport publié le 27 juillet sur le site web russe Gazeta sur l'incapacité de l'Occident et du régime sioniste à mener une guerre contre l'Iran, malgré les balivernes des médias sionistes, Vladimir Sajin, chercheur principal à l'Institut d'études orientales, affirme que l'Iran est capable d'affronter ses ennemis sans recourir à l'arme nucléaire. Il y a peu, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kohavi, a évoqué la préparation des forces armées israéliennes en cas d'affrontement militaire avec l'Iran, a rappelé Sajin, ajoutant que ce n'était pas la première déclaration menaçante de la partie israélienne contre l'Iran. En écho avec les déclarations sans fondement de Kohavi, le premier ministre israélien Yair Lapid a affirmé que l'Iran ne pouvait pas être arrêté par la voie de la diplomatie, soulignant « Même si Israël est capable de mener des frappes aériennes directes contre l'Iran avec l'aide des États-Unis, aucune de leurs forces ne débarquera sur le territoire iranien car l'armée iranienne, selon certaines sources, comprendrait de 700 1000 à 800 000 forces. Il est donc impossible de mener une guerre terrestre conventionnelle contre l'Iran. Le chercheur note qu'en réalité, Téhéran n'a pas l'intention de produire une bombe nucléaire pour le moment, car ce n'est pas son objectif principal par contre. les Iraniens cherchent à atteindre un niveau de développement de la science et de la technologie nucléaire pour répondre à leurs besoins, étant donné que de telles capacités représentent un facteur important dans la politique iranienne. L'expert russe est-il en train de suggérer que, militairement parlant, les transiraniens sont plus pertinents que les bombes nucléaires? L'apparition des transiraniens en Ukraine en dit long. Un membre du Conseil de la Fédération Russie a fait état d'un éventuel achat de transiraniens. Igor Morozov a déclaré que la Russie s'intéresse notamment aux drones d'attaque et de reconnaissance iraniens, affirmant que ces derniers sont parmi les meilleurs au monde et ont fait preuve d'efficacité. Les technologies iraniennes sont déjà même supérieures à celles utilisées par la partie américaine, ce qui explique le grand intérêt de la Russie, a-t-il poursuivi. Plutôt, les experts ont noté que les drones d'attaque iraniens Shahed 129 pourraient susciter le grand intérêt de la Russie, car ils ont déjà démontré leur efficacité avec succès. Dans les conditions actuelles, marquées par la crise en Ukraine, les experts ont noté que les drones iraniens seraient facilement en mesure de faire face aux armes occidentales à la disposition des forces armées ukrainiennes, dont des systèmes de longue portée HIMARS. Il y a quelques jours, Washington a annoncé que l'Iran pourrait déjà vendre ses drones à la Russie. Mais ni la partie russe ni la partie iranienne n'ont confirmé ces données.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la bataille gazière en Méditerranée. En effet, l'Iran et la Russie ont donné le feu vert au Hezbollah d'attaquer, s'ils le souhaitent, des sites offshore gaziers en Méditerranée d'Israël. L'exploitation illégale de ces sites, Karish, donc, a réduit donc la part russe du gaz vers l'Europe, ce qui a vraiment inquiété la Russie, car c'était un pilier énorme de pression contre l'Europe à la suite de la crise en Ukraine. Alors, la panique est à son comble en Israël et les responsables de ce pays ne savent plus où donner la tête. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Depuis que Nasrallah a tracé à l'antenne d'Al-Mayadin les contours de ce qui sera la première méga bataille navale de la résistance contre l'axe US-Israël, bataille qui aura pour le théâtre rien moins que la Méditerranée orientale ou la Palestine occupée, l'Égypte, Chypre, pompant le gaz, servent les bénéfices de l'Empire contre deux États résistants privés, eux, de ce même gaz, puisque l'Empire a pu les en empêcher jusqu'ici. Les sionistes se trouvent dans tous leurs États. Pourquoi? Parce que les révélations de Nasrallah au cours de ce très particulier entretien ont prouvé que, militairement parlant, ce pompage parfaitement inégalitaire des ressources offshore méditerranéennes, qui n'a rien moins que d'un pillage, risque de cesser à tout instant. Si le Hezbollah en décidait ainsi et que, par conséquent, la richesse gazière pourrait changer du jour au lendemain de camp, Israël pouvant devenir le parent pauvre de cette manne gazière contre un Liban qui, une fois les entreprises russes et iraniennes arrivées à Karish et à Cana, le remplacerait largement sur le marché du gaz, et ce, d'autant plus que quelques 57 trillions de pieds de cubes de gaz ont déjà été découverts en Égypte, en Palestine occupée et à Chypre, et que le gros du gaz méditerranéen se trouve désormais en Syrie et au Liban. Tous deux inexploités que les 9 sites offshore israéliens, à savoir Tamar, Leviathan, Nova, Marine, Dalit, Delphine, Samson et Tanine Karish n'arriveraient, d'excite les études européennes, même pas aux chevilles des 10 sites offshore libanais, car le plus gros des gisements israéliens, où Tamir, doté d'une réserve de 8,4 trillions de pieds de cube, en serait à des milliers d'années de lumière du plus petit site offshore libanais. Ce cauchemar Israël est-il capable de le repousser maintenant que le Hezbollah a même fixé une échéance début septembre pour une escalade qu'il dit pour la toute première fois depuis qu'il existe vouloir la déclencher en premier? Mardi, l'armée israélienne a relevé le niveau d'alerte navale. La presse sioniste a même parlé d'un forum multi-armes que l'entité a formé à la hâte et qui comprend le ministère de la Sécurité, la Marine, le département des opérations militaires, l'armée de l'air israélienne, le commandement nord de l'armée israélienne, ainsi que la communauté du renseignement, et tout ceci dans le but de se préparer à la possibilité que le Hezbollah tente de mener une opération militaire ou des provocations à remettre en cause ou de compromettre les opérations d'exploitation et de pompage.
Alors voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat et nous parlons bien sûr de cette bataille gazière en Méditerranée. Et comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir deux chers invités en commençant par Mme Ghada Hobolla, géopolitologue depuis Beyrouth. Bonjour.
Oui, bonjour à vous et à votre invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de Vrai-TV. Merci pour m'avoir invité sur le plateau.
Tout le plaisir est pour nous et merci d'être avec nous. Un grand bonjour à M. Imadeddine Hamrouni, expert des questions politiques depuis Paris. M. Hamrouni, bonjour.
Bonjour à vous et à votre cher invité, Olivier, et à tous les spectateurs de votre chaîne. Merci.
Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation. Nous entrons dans le vif du sujet. Je m'adresse à Mme Ghada Hobolla, géopolitologue depuis Beyrouth. Alors, la panique est à son comble, n'est-ce pas? Et les responsables israéliens ne savent plus où donner la tête. Après ce feu vert de la Russie et de l'Iran pour attaquer directement par missile des sites offshore, Karish, en Méditerranée, des sites donc illégalement exploités, n'est-ce pas?
Bah, disons qu'à chaque fois que le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, se prononce dans un discours et profère des menaces, le parcours de ce chef de la résistance islamique, qui est la branche armée du Hezbollah, est un parcours qui est crédible. C'est-à-dire que tous les Israéliens, lors d'un sondage qui a été fait au lendemain de la fin de la guerre des 33 jours en 2006, selon ce sondage, ils ont carrément affirmé qu'ils avaient confiance plus en Saïd Hassan Nasrallah qu'en leurs propres dirigeants. Donc, quand Saïd Hassan Nasrallah, qui est également stratège militaire, profère des menaces, c'est-à-dire qu'il a les moyens. Ce ne sont pas des menaces qui sont uniquement exprimées sur le papier. Et donc, quand il dit qu'il possède des drones, et là je fais référence à son dernier entretien ou interview exclusif accordé à la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen, dans laquelle il a commencé dans un premier axe à évaluer l'évolution de la stratégie de dissuasion de la résistance islamique et qui aujourd'hui peut se résumer en trois points. La résistance islamique dispose d'une force aérienne à travers ses drones, avec deux types de drones, ceux qui sont indétectables et ceux qui sont détectables. Également, il dispose déjà d'une force terrestre qui a fait ses preuves lors de la guerre des 33 jours ou la guerre de 2006. Et enfin, il dispose aussi d'une force marine puisqu'il a des missiles sol-mer qui ont également fait leurs preuves au cours de cette guerre. Donc, certainement, quand il menace et qu'il dit que la résistance islamique, elle peut atteindre tous les champs gaziers et pétroliers de l'ennemi israélien et qu'il a rappelé ce qu'il avait imposé durant la guerre de 2006 après Haïfa, et là aussi il a dit après Karish. Donc ils savent très bien, l'establishment militaire israélien sait très bien que Saïd Hassan Nasrallah est capable non seulement de viser ces sites, mais aussi il peut viser tous les navires qui transportent du pétrole et du gaz de l'ennemi israélien.
En effet. Voilà. Oui. Merci pour cette introduction. Restez avec nous. Nous avons naturellement d'autres questions à vous poser. Je vais m'adresser à M. Emadeddine Hambrouni, qui est avec nous depuis Paris. Alors, c'est vrai, comme a dit Mme Houbollah, que bon, le Hezbollah a marqué des avancées militaires considérables, que ce soit terrestre ou aérien. Mais est-ce qu'il va mettre à jour ces avancées, vu donc le feu vert de l'Iran et de la Russie à l'égard des sites illégalement exploités par Israël?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous savez, le secrétaire général du Hezbollah, il a parlé 180 minutes. Donc c'est un entretien très important qui s'adresse d'abord au peuple de la résistance dans la région, mais surtout il s'adresse à l'armée israélienne et à la Maison Blanche. Donc c'est un entretien fortement important pour la région et pour le monde, parce qu'on ne parle plus aujourd'hui du Liban et de la Palestine occupée, on parle d'un gros souci mondial, c'est-à-dire l'énergie, le gaz, le pétrole. Et donc, le secrétaire général du Hezbollah choisit ce moment important pour adresser trois messages. Le premier message, c'est que la résistance, elle travaille pour l'intérêt du peuple libanais, pour tout le peuple libanais. Deuxièmement, la résistance, elle a les moyens techniques, technologiques, pour mettre en place sa menace. Troisièmement, et ça c'est nouveau, c'est que la résistance aujourd'hui a les moyens d'être le premier qui agit. Donc c'est la première fois de l'histoire où l'entité sioniste, où l'armée sioniste et même l'armée américaine, elle est menacée par la résistance libanaise. Ça c'est un point très important. Et ce n'est pas simplement un feu vert russe ou iranien. Non, c'est une décision libanaise. Et ça aussi, il faut le noter, car la décision indépendante de la résistance forme sa force. La force de la résistance, c'est d'abord son indépendance, deuxièmement son courage et troisièmement son organisation. Comme il a bien détaillé, 180 minutes c'est beaucoup, mais il a bien détaillé comment la résistance travaille, comment la branche militaire possède les moyens technologiques hautement performants pour atteindre ses objectifs au-delà de Karish. C'est-à-dire aujourd'hui, il met, si vous voulez, un plan d'action qui dépasse Karish. Il dit, moi, je peux frapper tous les gisements gaziers de l'entité sioniste. Ça, c'est très important. Et donc, les donnes vont être changées. C'est-à-dire, pas simplement par rapport à la Méditerranée, mais aussi par rapport même à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les décisions de la résistance libanaise influencent la guerre en Ukraine. Donc, on est vraiment dans un plan international, mondial, d'opposition entre l'empire américano-sioniste et les pays et les mouvements de la résistance dans le monde. Et le point important aujourd'hui, c'est Karish, c'est-à-dire la Méditerranée, c'est-à-dire quelle sera la décision de l'entité sioniste politiquement pour que le Hezbollah ne déclenche pas sa menace à partir du 15 septembre.
Absolument. Ghada Houbollah, c'est vrai qu'il faut noter tout de même que la Russie donc, joue un rôle important dans ces menaces à l'encontre d'Israël, car justement ces sites gaziers Karish qui sont illégalement exploités par Israël menace justement la Russie pour réduire sa part donc de la Russie dans l'exportation du gaz vers l'Europe. Que pensez-vous?
Non, je suis pas tout à fait d'accord avec vous dans le sens où il faut pas oublier que dans l'affaire de l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers du Liban, vous avez un consortium de trois compagnies russes, dont un consortium de trois compagnies européennes, l'Italie, la Russie et Total, la France. Donc déjà la Russie avait réussi à renforcer sa présence au Liban à travers justement la porte pétrolière. Et le Liban, même s'il y a la Russie ou s'il y a l'Iran ou quoi que ce soit, le Liban en tant que tel menace l'entité sioniste s'il dispose ou s'il réussit à exploiter son pétrole et son gaz, parce que là aussi il aura la même chance sinon plus de pouvoir vendre ce pétrole et ce gaz aux Européens. Ok, donc ça c'est donc je vois pas vraiment où est-ce que cela constitue une menace. Au contraire, la Russie pourrait très bien profiter de sa présence au Moyen-Orient à travers la porte syrienne, mais aussi à travers justement ce consortium. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est là où le Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a donné une forme de boots à la Russie en disant que l'équation qu'il a imposée concernant après Karish, il n'a plus lié la question de l'exploitation et de l'exploration des champs gaziers et libanais du Liban avec la démarcation des frontières maritimes. Ce n'est plus une question qui est liée aux frontières maritimes, il a clairement dit. C'est une question qui est liée au lever du veto américain et israélien de toute compagnie qui souhaite investir au Liban concernant l'exploration et l'exploitation du pétrole. Et donc, cela inclut bien entendu les compagnies russes ou les compagnies iraniennes, premièrement. Deuxièmement, là, je voudrais remercier votre invité concernant une chose, quand vous lui avez posé la question concernant le feu vert russe et iranien. À plusieurs reprises, le secrétaire général du Hezbollah a mentionné qu'il n'y a pas de feu vert de la part de l'Iran. Nous agissons selon une stratégie indépendante par rapport à nos alliés, entre autres l'Iran. Seulement, la différence, c'est qu'il a dit, et c'est là où je peux dire, entre guillemets, de feu vert, ou plutôt d'autorisation légitime. Il faut avoir une certaine lecture de la littérature même du Hezbollah. Finalement, c'est un parti doctrinal. Et donc, quand on parle de parti doctrinal et quand il profère des menaces claires et précises concernant une probabilité de guerre, il doit assumer la responsabilité des victimes qui peuvent tomber en martyr. Cela, il ne peut pas assumer tout seul. Et là, il a besoin, bien entendu, d'une autorisation légale, entre guillemets, de la part du guide suprême de la révolution islamique, à savoir l'ayatollah Ali Khamenei. C'est seulement là qu'il y a, si j'ose dire, un feu vert. Autrement dit, non.
Monsieur Amrouni, voilà. Est-ce que vous voulez bien réagir face à ces propos, je vous prie?
Oui, ce feu vert, il est légal, il est spirituel, il n'est pas iranien. Je veux dire par là, il faut aller au-delà dans la conception de la résistance libanaise, dans le discours. Revenons au discours, à l'entretien. Il est très intéressant, l'entretien. L'entretien montre que le Hezbollah défend l'intérêt libanais. Il défend l'intérêt national libanais. C'est-à-dire presque, le secrétaire général, il a parlé au nom de tous les Libanais, même ceux qui sont contre le Hezbollah. Car à la fin, c'est-à-dire la manne pétrolière et gazière va revenir au peuple libanais. Donc,
excusez-moi de
vous interrompre. Oui, je vous en prie. Oui, allez-y.
Mais pour ajouter au propos de votre invité, qui a tout à fait raison, ce que a réussi à faire le secrétaire général du Hezbollah à travers ce discours, c'est de transformer la question de l'exploration et de l'exploitation pétrolière, et là je rejoins ce que votre invité a dit, à un enjeu national. C'est-à-dire que la légitimité de protéger ses ressources nationales, alors que le pays souffre d'une crise économique très importante, est beaucoup plus importante que celle de la légitimité de protéger les frontières entre la Palestine occupée et entre le Liban. Dans cette question, celle de la légitimité des frontières, le Liban est divisé horizontalement et verticalement. Il y a certains qui considèrent peut-être que l'ennemi israélien n'est pas un ennemi. Bon, mais quand il s'agit des ressources pétrolières et que le Liban est en train et que les Libanais souffrent de tous les maux, oui, alors là, la question devient beaucoup plus légitime. Voilà.
Oui. Exactement. Voilà. Monsieur Amrouni, poursuivez, je vous prie.
C'est-à-dire dans la lecture politique, dans le discours politique que mène Saïd Hassan Nasrallah, c'est un discours sur ce point-là, c'est-à-dire sur le point de la richesse gazière et pétrolière libanaise. Sur ce point-là, Saïd Hassan Nasrallah, il essaie de parler au nom de tous les Libanais, y compris ceux qui sont en opposition sur la doctrine de Hezbollah. Donc ça, c'est un changement important. Deuxièmement, Saïd Hassan Nasrallah, il se met dans le conflit global entre la Russie, la Chine d'une part, et les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël de l'autre côté. Et donc, il rentre avec l'affaire de Karish en plein fouet, si vous voulez, en plein dans le temps et l'espace, pour tirer de l'intérêt pour le peuple libanais, mais aussi pour le peuple palestinien. Car tout ce qui affaiblit l'armée israélienne et l'économie israélienne, il encourage la résistance palestinienne. Donc, l'importance de cette crise pétrolière, gazière, Saïd Hassan Nasrallah, il essaie de mettre la force importante de la résistance de Hezbollah en faveur des Libanais, mais aussi en faveur des Égyptiens. Car la guerre gazière, c'est une guerre très, très, très importante. Elle est fondamentale aujourd'hui. Et grâce à la stratégie de Hezbollah, et grâce à l'intelligence de Saïd Hassan Nasrallah, si vous avez remarqué dans son entretien, Saïd Hassan Nasrallah, c'est un homme spirituel, c'est un homme de culture, c'est un homme politique, mais aussi c'est un homme stratégique militaire. Lorsqu'il dit « j'ai discuté avec les frères, on a dit ceci, on a fait cela, on a envoyé tel drone, on a choisi de faire telle chose », donc c'est une personnalité complète. Et cette personnalité complète, il faut qu'elle soit, c'est-à-dire dans son importance, au-delà du peuple libanais, c'est une personnalité du monde arabe. Et il mène une guerre face à Israël, mais aujourd'hui, il mène la guerre face aux États-Unis. C'est-à-dire, le Hezbollah, aujourd'hui, il est face à l'Empire américain, pas simplement à l'entité sioniste.
Emad Edine Hamrouni, tout de même, il faut penser que... Est-ce que, bon, c'est vrai que l'avancée militaire du Hezbollah est considérable à présent, mais dans l'avenir proche, au moment où nous parlons, est-ce que le Hezbollah va mettre à jour les menaces, donc va vraiment attaquer ces sites gaziers de offshore, de Karish, en Méditerranée?
Si on revient à l'entretien, Saïd Hassan Nasrallah, il est tout prêt. C'est-à-dire, la résistance libanaise, elle est prête à 100%, y compris le plan des cibles. Tout est prêt. Tout dépend de la décision israélienne. En fait, c'est la première fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois de l'histoire de l'entité israélienne, l'entité sioniste, qu'elle est menacée directement par une force arabe musulmane. C'est la première fois, en direct, c'est-à-dire à Saïd Hassan Nasrallah, en direct, il leur dit, voilà, nous sommes prêts, nous avons mis le plan, nous avons les moyens technologiques, techniques, à vous de décider, ou bien vous nous laissez exploiter nos gisements gaziers et pétroliers, et on va vous laisser aussi, vous avez la possibilité d'exploiter ce que vous voulez, mais si vous commencez à exploiter avant que nous avons l'autorisation d'exploiter, hélas, personne ne va exploiter le gaz et le pétrole de cette région. Donc c'est un discours clair, précis et définitif. Le Hezbollah, la résistance libanaise, elle est prête à enclencher le premier attaque si Israël et les États-Unis décident de commencer l'exploitation avant que les Libanais aient le droit d'exploiter leur gisement.
Et Kata Hobola, est-ce que vous croyez qu'Israël va venir à la raison et va prendre très sérieusement ces menaces, ou bien le Hezbollah va passer à l'acte?
Disons qu'il y a des indices qu'ils prennent au sérieux, puisque le dernier discours, pas discours, mais les derniers propos du Premier ministre israélien, il a presque supplié le médiateur sioniste Amos Hochstein. Amos, parce que c'est un sioniste et qui servait dans l'armée de l'occupation israélienne en Cisjordanie. Donc, bref. Il a supplié que, justement, en disant que nous sommes prêts à nous plier à toutes les conditions, mais il faut signer absolument un accord concernant la démarcation des frontières maritimes. Donc, il y a des indices. Mais bon, l'histoire même de l'entité sioniste n'a jamais prouvé que c'était en fait une entité qui a une certaine raison et qui et parfois elle s'est souvent laissée entraîner dans des aventures qui se sont en fait retournées contre elle. Mais en fait, il y a une question à laquelle j'aimerais souligner pour conclure, c'est que est-ce que Hassan Nasrallah, oui, ira exécuter sa menace? Hier, au cours d'un entretien sur une chaîne satellitaire libanaise, justement cette question a été posée. Et un certain correspondant a répondu que les gens, la compagnie qui est censée explorer le gaz et le pétrole dans le champ gazier de Karish n'a jamais cessé de fonctionner. Et ça, le Hezbollah est au courant. Et il a des images. Alors, pourquoi n'a-t-il pas attaqué? Eh bien, tout simplement, dans la logique de la résistance islamique, il s'agit d'une résistance. Donc, jamais elle ira attaquer. Elle attend que, justement, le médiateur vienne au Liban, écoute les propos de la partie libanaise. Et ensuite, si jamais l'entité sioniste persiste et s'entête à ne pas justement laisser les compagnies derrière les États-Unis, à ne pas laisser le Liban explorer son pétrole et son gaz, alors oui, là, Hassan Nasrallah a bien dit dans son dernier discours, voire dans son interview, que sans accord avec le Liban, nous allons vers la confrontation. C'est très clair.
Oui. Kada Obola, géopolitologue depuis Beyrouth, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Et un grand merci. Merci encore et un merci à M. Emadeddin Hamrouni, expert des questions politiques, qui est avec nous depuis Paris. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Amis auditeurs, bienvenue au programme hebdomadaire portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Dans quelques instants, nous vous présentons quelques grandes lignes de cette semaine. Un réseau d'espionnage affilié au Mossad a été arrêté en Iran. Le ministère iranien du renseignement a déclaré avoir arrêté un réseau d'espionnage affilié au Mossad avant qu'il puisse commettre des actes de sabotage, dont la destruction d'une installation sensible de défense dans la province d'Isfahan, dans le centre de l'Iran. Dans un communiqué publié mercredi soir, 27 juillet, le ministère iranien du renseignement a annoncé que le réseau avait mis au point les méthodes les plus complexes afin de localiser géographiquement le site cible pour le détruire par une énorme explosion. Les membres du réseau d'espionnage appartiennent au célèbre groupe terroriste anti-iranien Gomala, indique le communiqué ajoutant qu'ils avaient été spécifiquement triés sur le volet par le chef du groupe terroriste Abdullah Mordadi et présentés au Mossad. Le ministère a également déclaré que le réseau avait introduit en Iran une grande quantité d'équipements et de munitions militaires en passant par la région semi-autonome du Kurdistan dans le nord de l'Irak. Le communiqué souligne que les munitions comprenaient 8 bombes puissantes pour faire exploser la cible principale et 8 bombes plus petites destinées à anéantir les dispositifs utilisés dans l'opération. Plusieurs pistolets, téléphones portables, ordinateurs portables, fausses cartes d'identité, une importante somme d'argent en rial iranien et en devises étrangères ont également été récupérés. La trêve pétrolière peut-elle réellement durer au Yémen? Près de 4 mois après la trêve, les Yankees sont plus que jamais impliqués dans le pillage du pétrole yéménite. La trêve peut-elle réellement perdurer? Le premier ministre du gouvernement de salut national du Yémen, Abdelaziz Ben Abtour, a déclaré que la visite de l'ambassadeur américain dans les provinces d'Al-Mahra et de Hadramout fait partie des tentatives américaines de dominer les puits de pétrole et les ports du Yémen. Lors d'une rencontre avec les préfets de Hadramout et d'Al-Mahra, Ben Abtour a déclaré que les conspirations des occupants dans les provinces et régions occupées devaient être traitées. Il a par ailleurs fait l'éloge de la résistance du peuple dans ces deux provinces et leur confrontation avec les agresseurs saoudiens et leurs projets mettant en cause la souveraineté du Yémen et a déclaré que le voyage de l'ambassadeur américain à Al-Mahra et à Hadramout a pour but de dominer les puits de pétrole et les ports dans la côte sud et une partie des côtes ouest du Yémen. Des sources locales à Socotra ont annoncé que parallèlement au développement d'une piste d'aéroport militaire dans le sud de Socotra, une nouvelle cargaison de matériel militaire émirati est arrivée dans l'île yéménite. Des ingénieurs et des pilotes étrangers, dont des Israéliens affiliés à l'Institut émirati Khalifa, sont arrivés à Socotra pour lancer un groupe spécial d'hélicoptères et de reconnaissance et de combat. À cet égard, des sources yéménites ont rapporté en avril dernier que les Émirats arabes unis, en collusion avec le régime sioniste, avaient ouvert un aéroport sur l'île d'Abd al-Khoury, situé dans l'archipel de Socotra, dans le sud du Yémen. L'armée sioniste a perdu à Jenin. Le camp de réfugiés de Jenin a été l'épicentre des tensions en Cisjordanie occupée ces dernières semaines, surtout après que les raids israéliens sont passés d'un schéma hebdomadaire à une routine presque quotidienne avec des combats armés entre soldats israéliens et militants palestiniens à chaque incursion, coûtant la vie à 7 Palestiniens début mars. Sur fond des menaces des Israéliens de prendre d'assaut le camp de Jenin, des gens palestiniens ont bloqué les entrées du camp de Jenin avec des monticules de terre et des pneus en caoutchouc pour contrer l'éventuelle attaque des soldats israéliens. Depuis lors, chaque fois que les soldats israéliens attaquent le camp de Jenin et tentent de s'y infiltrer, ils se heurtent à la ferme résistance des habitants du camp et des villages environnants ainsi que des combattants de la résistance. Les forces israéliennes sont de plus en plus confrontées à une résistance armée suite à leur raid sur n'importe quelle zone à Jenin, que ce soit le camp de réfugiés, la ville adjacente ou les villages environnants. Des cellules individuelles se sont formées dans ces villages et des combattants de la résistance s'y rendent pour affronter les forces israéliennes et repousser les incursions. Suite à l'échec de chaque opération militaire contre le camp de Jenin, les militaires israéliens commencent à s'en prendre aux civils dans les rues, en leur tirant dessus par balles réelles dans une tentative de démonstration de force et de dissimuler leur échec, a témoigné l'un des habitants du camp de Jenin. Une liaison ferroviaire Riyad-Athènes pour briser le monopole énergétique russe. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman est en visite en Europe. Une première depuis l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi, qui avait mondialement terni l'image du royaume saoudien. Il s'est rendu le mardi 26 juillet en Grèce pour une visite officielle de 2 jours avant une seconde étape en France. Les relations entre les deux pays sont historiques et nous aurons l'occasion de finaliser une série de projets bilatéraux, a dit le prince héritier saoudien au début de sa rencontre avec le premier ministre grec. Il a également évoqué la coopération bilatérale concernant les technologies sur l'hydrogène et le projet de transformer la Grèce en plaque tournante de l'Europe pour cette technologie. Dans un contexte où l'Europe a un besoin urgent de diversifier les sources d'approvisionnement énergétique et de réduire leurs prix, cette visite de Mohammed bin Salman est assez significative, Quelle sera la réaction de la Russie lorsqu'elle constate que le Royaume saoudien prévoit de fournir à l'Europe une énergie moins chère alors que Moscou est en pleine guerre en Ukraine? Le déplacement de Mohamed Ben Salman à Athènes s'est soldé par la signature de plusieurs accords. Rappelons que jusqu'à présent, Riyad a résisté aux pressions de ses alliés à Washington et dans les pays européens, invoquant ses obligations envers les pays exportateurs de pétrole au sein de l'alliance OPEP+ avec Moscou. Eh bien, si ça achève ce programme, merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois.